Science Chrono, Antoine Beauchamp.
L'histoire lumineuse du miracle antibiotique est indissociable de celle moins reluisante de l'antibiorésistance. Alors que pendant des décennies, on a occulté cette adaptation des bactéries aux molécules développées industriellement pour les combattre, la prise de conscience globale autour de l'antibiorésistance a été lente et tarde à être suivie d'effets. De remède miracle pour la médecine à danger pour la santé mondiale, Science Chrono retrace aujourd'hui l'itinéraire de ce phénomène global qui va bien au-delà de la seule histoire de la santé. Bonjour Charlotte Brive.
Bonjour Antoine Beauchamp.
Vous êtes anthropologue des sciences et de la santé, chargée de recherche CNRS au centre Émile Durkheim de l'Université de Bordeaux. Et vous êtes l'autrice du livre « Face à l'antibiorésistance, une écologie politique des microbes » paru aux éditions Amsterdam. Je suis ravi de vous recevoir aujourd'hui pour parler de l'antibiorésistance et de l'émergence de la prise de conscience autour de ce problème qui dépasse largement, on va le voir, les sphères de la microbiologie et de la médecine. Mais avant que nous parlions de ce problème mondial qu'est l'antibiorésistance, je vous propose comme chaque fois dans Science Chrono de faire un retour dans le passé. Avant de parler, on va écouter une archive sonore. Il s'agit là d'un extrait du journal télévisé d'Antenne 2, datant du 31 décembre 1975. On y entend, outre la voix du journaliste, les voix de Maurice Rapin, doyen de la faculté de médecine de Créteil, et Jean Duval, professeur de bactériologie à l'hôpital Henri Mondor. Les deux spécialistes livrent leur point de vue sur ce phénomène de l'antibiorésistance.
30% des médicaments consommés par les Français sont des antibiotiques. Leur prix élevé ne les empêche pas d'arriver en troisième position dans la liste des médicaments les plus vendus, au grand bonheur des laboratoires pharmaceutiques. Remède miracle pendant des années, ils sont aujourd'hui remis en question. Certains microbes détruits par les antibiotiques se sont non seulement adaptés à eux, mais arrivent maintenant à se défendre.
La remise en question des antibiotiques est la conséquence de leur emploi très large et peut-être même excessif. Leur emploi très large était justifié par le fait que lorsqu'ils sont apparus, ils ont pour la première fois amené à guérison des maladies qui étaient autrefois inéluctablement mortelles.
Certes, les médecins n'oublient pas les avantages des antibiotiques et se gardent bien de les condamner. Mais ils se sont rendus compte que dans certains cas, l'antibiotique agit comme un révélateur. En détruisant les microbes sensibles, il sélectionne en quelque sorte les autres, les souches résistantes qui ont ainsi le champ libre.
Plus on utilise les antibiotiques, plus ils tendent à perdre leur efficacité. En effet, la capacité des bactéries de réagir contre ces poisons que nous leur opposons est quelquefois surprenante. Certaines d'entre elles sont capables de fabriquer des contrepoisons, nous disons des enzymes, qui inactivent l'antibiotique. D'autres bactéries, au contraire, sont capables de croître en présence de l'antibiotique non modifié. Elles s'y sont accoutumées, elles tolèrent la drogue. Certaines bactéries sont tellement accoutumées à l'antibiotique et qu'elles en ont besoin, elles en sont dépendantes, elles ne peuvent se multiplier qu'en présence de l'antibiotique. Vous voyez que dans le monde bactérien, il est aussi des toxicomanes.
Voilà, Charlotte Brive, on saute à pieds joints dans notre sujet avec cette archive. Elle est étonnante, cette conclusion qui humanise les bactéries et qui en font des toxicomanes, non ?
Oui, elle est étonnante, elle est assez surprenante. C'est assez courant, en fait, quand on parle des microbes, d'avoir tout un tas de métaphores et de récits pour essayer de comprendre un peu ces entités qu'on voit pas. Donc, il faut trouver des systèmes d'explication. Mais là, ce qui est étonnant avec l'histoire de la toxicomanie, c'est que, c'est pas si étonnant. Dans le fond, parce que si on file la métaphore de la toxicomanie, en fait, dans ce cas-là, en général, ce sont les toxicomanes qui sont responsables de leur addiction. En général, c'est malheureusement comme ça que c'est posé, plutôt que d'interroger les conditions dans lesquelles ils ont pu avoir accès aux drogues et les conditions dans lesquelles, en fait, ils deviennent ou elles deviennent addicts. Et donc là, c'est quelque chose qu'on remarque assez souvent, qui est en fait de faire porter sur des individus une responsabilité d'un phénomène qui, en fait, les dépasse très largement, et dans le cas de l'antibiorésistance, c'est assez évident.
Oui. Finalement, ce seraient les bactéries elles-mêmes qui seraient la cause de ce problème, et non pas l'usage excessif d'antibiotiques.
Exactement.
Autre fait intéressant, c'est qu'on est en 1975, oui, il y a près de 50 ans, et à l'époque, on parlait pas du tout de l'antibiorésistance comme d'un risque majeur pour la santé mondiale, mais pourtant, le problème était déjà là. Alors, il se situait où, ce problème, selon vous, et d'après ce que nous dit cette archive ?
Alors, ce qui est intéressant, c'est que j'ai envie de dire, ça a pas tant changé que ça. Donc on va certainement y revenir, mais dans les années 70, on savait déjà que l'antibiorésistance existait. Hein. Très rapidement, on s'est rendu compte, dès la mise sur le marché des premiers antibiotiques, on a très très vite documenté en fait l'apparition de résistance. Et quelque part, c'est normal. On reviendra peut-être tout à l'heure sur la façon dont ils ont été produits, isolés, etc. Mais effectivement, on en fait quelque chose de ponctuel. Et donc, on considère que dans un milieu donné, il y a une pression de sélection qui se fait avec les antibiotiques. Et donc, il y a des bactéries qui vont muter, qui vont s'adapter et qui vont en fait transmettre ces mutations à leur descendance, hein, ce qu'on appelle en fait une transmission verticale, donc par filiation. Et à ce moment-là, on considère que c'est le principal mode de transmission de la résistance aux antibiotiques et on en fait quelque chose qui est dû à, souvent, un mauvais usage des antibiotiques. Mais c'est aussi ce que dit Alexander Fleming, qui était donc découvreur de la pénicilline. Là aussi, il y a plein de choses très, très intéressantes à raconter sur cette histoire. Mais ce que dit Fleming quand il reçoit son prix Nobel, c'est que si on doit utiliser de la pénicilline, il faut en utiliser suffisamment, donc à dose suffisamment forte, pour ne pas laisser le temps à la bactérie de s'adapter. Mais en fait, il va plus loin quand on regarde son discours, c'est-à-dire qu'il impute vraiment la responsabilité de l'apparition de la résistance à une forme d'ignorance et à une faute individuelle, que ce soit celle du médecin ou celle du malade.
Ben là, on va le citer, Alexander Fleming, qui, le jour de la réception de son prix Nobel en 1945 pour la découverte miraculeuse, on va en parler de ce miracle, de la pénicilline, dit « Il n'est pas difficile de créer des microbes résistants à la pénicilline en laboratoire en les exposant à des concentrations qui ne sont pas suffisantes pour les tuer. Il existe donc un danger, celui que l'homme ignorant puisse facilement s'exposer à des doses insuffisantes et ainsi expose ses microbes à des quantités du médicament qui ne sont pas mortelles, les rendant ainsi résistants. » On est en 1945, au tout début des antibiotiques, et déjà le problème est exposé à la façon dont vous le décriviez tout à l'heure. C'est pas le problème de la drogue et de sa production, mais c'est plutôt des mésusages et finalement une forme d'ignorance. Ce qui est intéressant aussi de rappeler, c'est que les bactéries sont des êtres inutiles cellulaires qui existent depuis 3 milliards d'années, qui de tout temps et depuis le début de leur existence se sont adaptés à des antibiotiques, se sont adaptés à des éléments, à des substances, à des molécules qui pouvaient leur nuire. Et donc, à partir de la découverte des antibiotiques, la pénicilline en particulier, et à partir du développement industriel de ces médicaments-là, elles ont fait ce qu'elles ont toujours su faire, elles se sont adaptées et elles ont répondu à une menace.
Oui, tout à fait. C'est assez bien résumé, effectivement. Il se trouve qu'effectivement, les antibiotiques sont des molécules chimiques qui sont synthétisées de façon tout à fait normale par les micro-organismes, hein, donc des bactéries, des champignons, etc. Et que, ce sont des médiateurs, en fait, des relations entre des populations bactériennes. Et à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Le problème vient, effectivement, de la massification. Et donc, ce qui va se passer dans cette histoire, progressivement, c'est que, donc, on a Alexander Fleming qui, en 1928, rentre d'une semaine de vacances et puis voit une contamination sur sa boîte de pétri. Et que, alors là, effectivement, le coup de génie, on va dire, ou en tout cas l'interrogation du scientifique ou de la scientifique, c'est de dire, quand même, hein, c'est bizarre, j'ai des taches bizarres autour de mes, voilà,
mes bactéries ne poussent pas,
il y a un truc un peu bizarre. Et donc, il se trouve que son voisin de paillasse cultivait un champignon qui s'appelait Penicillium notatum. Et donc, il va comme ça découvrir que ce champignon sécrète une molécule à laquelle la bactérie est sensible et qui l'empêche de se développer. Mais lui, il ne va pas du tout l'utiliser dans une configuration thérapeutique. Il va l'utiliser pour faire du typage, pour tout un tas de choses dans les années qui vont suivre. Et c'est vraiment à peu près une dizaine d'années plus tard qu'on va commencer à développer la possibilité d'utiliser la pénicilline à des fins thérapeutiques. Et ça va quand même prendre pas si longtemps que ça, mais ça va demander énormément d'efforts. Donc, enfin, on va dire à rebours d'une histoire des grands hommes qui ferait de Fleming finalement le seul personnage, cette espèce de génie découvreur d'un médicament miracle. Il y a derrière beaucoup de personnes, des hommes, des femmes, des techniciens, des techniciennes, des laboratoires en Angleterre, aux États-Unis, des dispositifs, toute une galaxie en fait de choses, d'humains, etc. pour arriver à la production de la pénicilline. Petite anecdote, parce que c'est quelque chose que j'aime bien rappeler parce que ça en dit long sur ce qui va se passer dans le reste de l'histoire. Il se trouve que ce qui va permettre de rendre possible la production massive de pénicilline, c'est une technique de fermentation en cuve qui, à l'origine, a été développée par une petite entreprise à ce moment-là qui s'appelait Pfizer.
Pfizer.
Et c'est vraiment donc la possibilité de développer ces antibiotiques et de les produire en masse qui va radicalement changer, mais alors à un point, je pense, inimaginable même pour les gens de l'époque, les sociétés humaines.
Et accessoirement, il y a un contexte historique particulièrement et tristement favorable au développement de la pénicilline comme un antibiotique pour sauver des vies.
Bien sûr.
Le contexte de Seconde Guerre mondiale. Ouais. Ça fera même partie des publicités des industries pharmaceutiques naissantes. On sauve des soldats avec la pénicilline, on ramène nos boys à la maison grâce à la pénicilline. Et là, il y a tout un contexte industriel et symbolique qui se constitue autour de la naissance de ces premiers antibiotiques. Est-ce que ça va très très vite, cette industrialisation de la production des antibiotiques, et pourquoi c'est aussi rapide et aussi simple d'une certaine façon?
Alors c'est extrêmement rapide parce que à partir du moment où on sait les produire et qu'on sait les produire en masse, Il va y avoir plusieurs phénomènes qui vont entrer en ligne de compte. Donc le premier, vous le rappelez, on a besoin des antibiotiques. Et alors vraiment, on va avoir une diminution drastique de la mortalité, notamment de la mortalité infantile. On va avoir vraiment une diminution de la mortalité des femmes en couche également. Et plein d'autres choses, comme vous le rappeliez, ça a d'abord soigné les soldats. Mais très rapidement, en fait, c'est disponible dans les hôpitaux américains dès les années 45, enfin dès 1945. Et très très rapidement, il va y avoir une course qui va se mettre en place entre les différentes entreprises pharmaceutiques, parce que la pénicilline et la streptomycine qui vont suivre n'ont pas de brevet. Donc au départ, en fait, on ne peut pas générer tant de profit que ça avec ces molécules-là. Et ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une espèce de course aux antibiotiques où tout le monde va se lancer un peu dans la recherche, dans l'exploration des bactéries du sol. On va aller chercher, faire des échantillonnages un peu partout, etc. pour trouver de nouveaux antibiotiques. Et on va dire un peu l'exemple paradigmatique de ça, c'est la téramycine qui est découverte et commercialisée par Pfizer à la fin des années 40, peut-être, je ne sais plus exactement la date. Mais où là, en fait, on révolutionne à la fois, finalement, j'aime pas trop le terme révolutionner, parce que, en tout cas, on change de façon assez conséquente radical. Les pratiques de la médecine et de l'infectiologie, mais aussi l'industrie pharmaceutique, puisqu'on va commencer à avoir des techniques marketing, publicitaires qui vont se développer. On va commencer à vouloir, vraiment, là, c'est le début de la recherche de profit. Donc, on va essayer de faire des antibiotiques, des combinaisons à doses fixes d'antibiotiques, etc. Ça va inonder le marché très vite, mais là, il va y avoir un stop qui va être mis très léger.
Léger, mais en tout cas, dans l'histoire des sciences, c'est intéressant parce que c'est le moment aussi où se développent les essais cliniques. Et où
C'est pour cette raison-là en fait. C'est-à-dire que, il n'y a pas que les antibiotiques, mais les antibiotiques contribuent énormément à ça. C'est-à-dire qu'il va y avoir une commission qui va se mettre en place à la fin des années 50, menée par le sénateur Estes Kefauver, et qui vont donner lieu en 1962 aux amendements Kefauver-Harris, qui vont demander en fait à ce qu'il y ait non seulement des preuves de safety, d'innocuité des traitements, mais aussi des preuves d'efficacité avant de les mettre sur le marché. Donc ça, c'est une étape et c'est très important parce que ça va énormément reconfigurer en fait donc la pharmacie qu'on va appeler la médecine des preuves par la suite. Donc ça, c'est un premier rapport, en fait, en tout cas, une première inflexion produite par les antibiotiques. Mais parallèlement, ce qui va se passer aussi, c'est que très vite, on va se dire, ces antibiotiques, on peut aussi les utiliser ailleurs, et notamment en santé animale.
Et là, justement, il y a une foi assez aveugle dans ces antibiotiques. On ne peut pas le reprocher aux gens de cette époque. On ne peut pas juger le passé à l'aune de notre présent où on a pris conscience de tout ça. C'est vrai que c'est un miracle, l'antibiotique. On sauve des millions de vies, on a sauvé des millions de vies, on continue de sauver des millions de vies chaque année grâce aux antibiotiques. Mais l'usage qui en est fait immédiatement est un usage totalement disproportionné. Vous parliez justement de la santé animale et des élevages industriels qui se développent sur ces antibiotiques. L'un des piliers du développement de l'élevage industriel, c'est l'usage des antibiotiques.
Alors, il était déjà industrialisé, l'élevage. Il y avait déjà plein de recherches qui étaient faites pour améliorer la rentabilité, la productivité, la croissance, etc. Il y avait d'ailleurs, et c'est comme ça, on a commencé d'abord à donner des antibiotiques parce que il y a la promiscuité dans les élevages qui fait que on va plus facilement avoir des épidémies ou autres. Donc ça permettait en prophylaxie ou en curatif de juguler un peu ce risque épidémique. Mais comme justement il y avait cette recherche de rentabilité, il y avait une attention très forte qui était portée aussi à l'alimentation des animaux d'élevage. Et c'est dans le cadre de cette attention-là que on s'est rendu compte assez rapidement que l'ajout d'antibiotiques dans l'alimentation favorisait la croissance des animaux. Et là, ça a été un peu le carnage, j'ai envie de dire, parce que on s'est mis du coup à mettre des antibiotiques dans la nourriture pour augmenter la croissance animale.
La croissance animale, la croissance végétale aussi. J'ai lu qu'on pulvérisait des sprays antibiotiques sur des végétaux, sur des plantes, sur des arbres.
Là, c'est davantage protéger pour les risques épidémiques que pour la croissance. Mais après, effectivement, on l'a aussi utilisé d'abord dans les élevages animaux, donc le bétail. Dans les fermes piscicoles, dans les rizières, partout. Enfin, donc très rapidement, et ça c'est vraiment les années 50-60, très très vite, on va se mettre à les utiliser partout.
Et ça explique du coup le développement tout d'un coup massif de l'antibiorésistance, c'est que des bactéries qui étaient habituées dans leur petit écosystème, parce que des bactéries, il y en a partout, mais des bactéries qui étaient habituées à lutter contre des molécules en particulier, tout d'un coup se retrouvent exposées à des molécules auxquelles elles n'auraient jamais dû être exposées de fait, ou naturellement au contraire, et là de fait elles s'y retrouvent exposées, et elles vont commencer à s'adapter, elles vont commencer à transmettre aussi ces gènes de résistance à d'autres bactéries, parce qu'il faut le rappeler, les bactéries sont des organismes particulièrement, au génome particulièrement plastique, et donc transmettent horizontalement ces gènes de résistance, et ça crée un terrain ultra favorable à l'émergence de l'antibiorésistance très rapidement.
Oui, et pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure sur cette histoire de transmission verticale, très rapidement, là encore, dans les années 50, on a les époulées d'Herberg. Hein, on parle souvent de Joshua parce qu'il a le prix Nobel, mais en fait, sa femme Esther était une excellente microbiologiste et a fait beaucoup, mais elle a toujours un peu oublié. Voilà. Mais très rapidement, en fait, dans les années 50, ils ont mis en évidence ce qu'on a appelé après les plasmides, c'est-à-dire des molécules d'ADN circulaire assez robustes qui peuvent survivre en dehors des micro-organismes et que les micro-organismes s'échangent assez rapidement. Alors, il y a des tas de mécanismes qui entrent en considération.
On n'aura peut-être pas le temps de tous les décrire ici.
Mais dans la transmission de ces gènes de résistance. Mais c'est quelque chose qui était connu, qui a été en revanche, on va dire, en partie sous-évalué. Et donc, ce qui se passe à partir du moment où on commence à mettre des antibiotiques un petit peu partout, c'est qu'effectivement, donc, les bactéries acquièrent chacune, finalement, dans leur coin, on va dire, au départ, des gènes de résistance. Et alors ensuite, elles se les échangent. Et alors, au fur et à mesure de l'histoire, là, on a un exemple qui est assez terrifiant d'une bactérie qui s'appelle Irachibacter baumannii, sur laquelle ça a été la première où on a décrit ce qu'on a appelé des îlots de résistance, c'est-à-dire sur un plasmide. On a trouvé, c'est une quarantaine de gènes de résistance qui codent pour des gènes pour résister à différents antibiotiques à la fois, sur le même morceau d'ADN. Et donc, en fait, il se trouve que comme elles s'échangent ces morceaux d'ADN, si vous avez une pression de sélection derrière, ça va sélectionner la bactérie qui est ce plasmide-là pour un antibiotique, mais aussi pour tous les autres antibiotiques dont les gènes de résistance sont codés par le plasmide. Et donc, on a des transmissions massives, du coup, pas uniquement, en fait. Donc, non seulement pas verticale par filiation, horizontale aussi, mais en plus, on peut y aller, en fait, on a des bouquets en fait, de résistance. Quoi. Et alors là, c'est là où ça devient extrêmement compliqué.
Et on va voir quelles réactions étaient apportées à cette antibiorésistance naissante.
France Culture, Science Chrono, Antoine Beauchamp.
On poursuit cette histoire de l'antibiorésistance avec vous, Charlotte Brive. Et ce dont j'aimerais discuter avec vous à présent, c'est des réactions et des réponses qui ont été apportées à cette antibiorésistance dans l'archive de 1975 qu'on écoutait tout à l'heure. Finalement, c'était un constat qui était réalisé, mais il n'y avait pas d'inquiétude particulière. Pourtant, dès les années 60, il y a des rapports qui sortent, qui sont suivis d'autres rapports dans les années 80. En 1992, il y a un médecin américain qui s'appelle Stuart Levy qui écrivait un livre intitulé Le paradoxe antibiotique, où il parlait lui aussi de façon un peu prémonitoire de ce miracle qui tue le miracle. Il évoquait même la possibilité dans ce livre qu'on ne puisse plus du tout utiliser des antibiotiques à horizon de la moitié du 21e siècle. Et malgré ça, il n'y a pas eu de décisions qui ont été prises, il n'y a pas eu de prise en compte et de réponse politique, elle, pour le coup, à cette émergence de l'antibiorésistance et à cette installation de l'antibiorésistance. Alors, comment on explique ça ?
On l'explique en partie par le fait que les antibiotiques, comme je vous le disais, à force, entre l'amélioration de la santé, la rentabilité des personnes, la rentabilité des animaux d'élevage, etc., en fait, ont constitué ce que d'autres, et avant moi, et donc que j'ai repris dans le livre, de ce qu'on appelle en fait des infrastructures antibiotiques. Il faut voir que aujourd'hui, les antibiotiques sont devenus un élément majeur de l'exploitation des êtres vivants dans la seconde moitié du XXe siècle, mais au point que ça a transformé vraiment des secteurs entiers. On parle de la médecine, on parle de l'élevage, on parle de l'agroalimentaire dans son ensemble, avec des disparités nord-sud qui sont assez terrifiantes. Mais en fait, le parallèle est intéressant. En 2013, le rapport écrit par Davis qui vraiment met le feu aux poudres, hein, et qui là, c'est à partir de là qu'il y a une prise de conscience, on va dire, globale de ce problème d'antibiorésistance. Elle compare le problème de l'antibiorésistance à celui du réchauffement climatique. Et moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que effectivement, c'est un problème qui est tellement global que par où on le prend ? C'est-à-dire que, bien évidemment, il faut faire attention à l'utilisation des antibiotiques en santé humaine. C'est ce qu'on nous rabâche à longueur de temps. Et d'ailleurs, une grande partie, malheureusement, j'ai envie de dire, une grande partie des préconisations aujourd'hui des grandes organisations internationales portent sur ce qu'ils appellent le stewardship, donc vraiment une approche raisonnée de l'utilisation des antibiotiques, ciblée là encore sur les médecins, les personnes malades, etc. Hein, les antibiotiques, c'est pas automatique, ça c'était au début des années 2000, mais 2002, ça n'a pas trop changé. Ouais. Voilà. Et pour l'instant, c'est ce type de réponse-là qui est mis en avant, alors qu'on voit très bien, maintenant on a vraiment quand même des chiffres, on a quand même des enquêtes, comme vous le rappeliez, hein, les premières enquêtes, c'est les années 60. Le rapport Anderson en Angleterre montre qu'on a une acquisition de résistance qui se fait dans les fermes et qui se transmet ensuite à la famille, aux vétérinaires. Ça va assez vite. Tout ça, pourquoi ? Alors ça, c'est extrêmement compliqué. C'est pas tant de mon ressort que ça. Mais majoritairement, j'ai envie de dire, c'est tellement les antibiotiques sont devenus tellement intriqués à nos modes de production et de consommation qu'arriver à déloger, arriver à changer ça, c'est-à-dire que là, on est au stade où une décélération est nécessaire. Et ça, ça va peut-être nous amener sur une autre question, mais la décélération, elle est nécessaire, c'est-à-dire qu'il faut arriver à diminuer les antibiotiques. Alors, l'Europe s'est engagée là-dessus depuis un certain temps, hein. C'est-à-dire qu'on a interdit les promoteurs de croissance dans les élevages en 2006, mm-hmm. Il y a un certain nombre de choses qui sont faites, les vétérinaires ont énormément réduit leur consommation d'antibiotiques en France, mais il n'empêche que le problème n'est pas...
Voilà. Énorme,
il y a des disparités énormes, et puis surtout, en fait, le problème ne s'arrête pas aux frontières, hein. Vous le disiez, les bactéries, en fait, elles voyagent, elles s'échangent plein de choses, etc. Moi, je me rappelle très bien qu'il y a quelques années de ça, quand j'avais travaillé un peu sur Irakibacter, le seul antibiotique qui marchait encore, c'était la colistine, qui par ailleurs est un antibiotique, avait des effets délétères extrêmement importants, des effets secondaires très très forts. Donc c'était vraiment le truc qu'on utilisait en dernière intention. Peu de temps après, la Chine a commencé à utiliser la colistine dans les élevages, et très vite, on a eu des apparitions de souches totirésistantes ou totorésistantes, c'est-à-dire vraiment résistantes à tous les antibiotiques, y compris la colistine.
Là, le problème, c'est qu'on est face maintenant à des bactéries qui sont résistantes à tous les antibiotiques qui ont été développés. La recherche autour des antibiotiques, elle est quasiment au point mort. On ne cherche plus de nouvelles molécules antibiotiques, puisque justement, on sait que de plus en plus de bactéries sont résistantes. Alors, si on devait envisager une voie parallèle, elle existe un peu, cette voie parallèle, ou en tout cas, elle a été imaginée dès les années 1917 avec la découverte des bactériophages, ces virus qui sont mangeurs de bactéries. Il y a une histoire un peu parallèle qui serait extrêmement intéressante de raconter dans une émission complète, mais on peut peut-être dire, voilà, ces virus mangeurs de bactéries qui ont été développés par un élève de Pasteur, Félix Derel, qui ont été très utilisés en URSS, donc là aussi, ça renvoie à la grande histoire et au conflit entre deux mondes, et le fait qu'il n'y ait pas eu autant de recherches que ça autour des bactériophages, c'est peut-être aussi parce qu'il y avait cette guerre froide qui intervenait et que c'était plus compliqué à fabriquer tout simplement que des antibiotiques. Voilà, ces bactériophages-là, aujourd'hui, est-ce qu'ils pourraient constituer une solution alternative viable aux antibiotiques, ou bien est-ce que, au contraire, il faut repenser même la recherche autour de médicaments contre les bactéries et inclure ces bactériophages comme des modèles peut-être pour une médecine du futur ?
Alors, les phages, dans cette histoire, c'était la raison pour laquelle en fait, je me suis intéressée aux antibiotiques, c'était d'abord les phages.
C'est l'objet du livre Face à l'antibiorésistance.
Tout à fait, mais effectivement, pour comprendre cette histoire des phages, on est obligé d'en passer par l'histoire des antibiotiques, parce qu'ils se développent, comme vous l'avez rappelé, hein, dans la première moitié du XXe siècle. Ils sont abandonnés, il y a un destin, il y a deux histoires parallèles, hein. Ils sont abandonnés effectivement en Europe de l'Ouest et en Amérique du Nord à partir des années 40, 50... Ça perdure dans les années 60-70. Alors, bien évidemment, l'explication la plus évidente, c'est celle des antibiotiques. Mais alors, c'est pas que, dans ce cas-là, c'est pas que le fait que les antibiotiques soient faciles à produire, faciles à utiliser, c'est du large spectre, on n'a pas besoin de se poser la question, etc. Ça, c'est vrai. Il faut aussi remettre ça dans l'histoire plus générale qu'on évoquait rapidement tout à l'heure, hein, c'est-à-dire vraiment d'une conception du vivant où l'idée, c'est on va éradiquer ce qui nous embête et on cherche pas à comprendre ce qui va se passer. Donc, l'antibiorésistance, par ailleurs, s'accompagne d'autres problèmes qui sont liés, en fait, à cette question éradicatrice et hygiéniste extrêmement forte où voilà, on considère que si ça sert à rien ou on ne sait pas à quoi ça sert, mais il faut l'enlever parce que c'est pas grave. Les phages, donc comme vous le disiez, hein, c'est des virus qui coévoluent avec les bactéries depuis très longtemps. Donc ils ont plusieurs avantages, dont celui d'être extrêmement précis, puisqu'ils ne peuvent pas entrer en relation avec n'importe quelle bactérie. Et donc développer la thérapie phagique, ça veut dire développer des phages qui vont justement cibler uniquement la bactérie qui est pathogène. Et donc, il y a plusieurs possibilités d'imaginer le développement de cette thérapie. Soit, on va se contenter d'utiliser que le phage qui est efficace sur la bactérie de la personne malade. Ça, c'est l'approche que les gens appellent sur mesure et qui, à notre faveur, à quasiment toutes les personnes avec lesquelles je travaille, parce que justement, ça permet de préserver le microbiote humain et de préserver de toute façon les microbes dans les différents milieux dans lesquels on va utiliser ces phages. Et puis, il y a un autre type d'approche qui est celui privilégié au départ, d'ailleurs par les agences de réglementation, ce qui en dit long, et par les start-up et l'industrie, qui est de faire des cocktails de phages, c'est-à-dire de mettre plein de phages différents pour dire, comme ça, on a un cocktail et on peut l'utiliser un peu comme un antibiotique qui aurait un spectre plus large d'utilisation. Pourquoi je dis que ça en dit long ? Parce que ça vienne des agences de réglementation, parce que ça montre la prégnance vraiment du modèle antibiotique. C'est-à-dire que les antibiotiques, quand je parlais d'infrastructure tout à l'heure, c'est-à-dire que vraiment, ils chapeautent énormément de choses, ils font tenir vraiment beaucoup de choses, mais ils ont aussi, pour utiliser des gros mots, un rôle ontologique et épistémologique très fort. C'est-à-dire que les antibiotiques, en fait, nous disent ce que doit être un agent anti-infectieux. Un agent anti-infectieux, ça doit être comme un antibiotique, c'est une molécule, on le prend, on balance, ça marche, et puis on passe à autre chose. Mais l'autre problème, c'est que c'est aussi une espèce d'infrastructure épistémologique, puisque on considère, les essais cliniques ont été vraiment développés pour les molécules chimiques que sont les antibiotiques. Et donc, c'est une façon de faire preuve de l'efficacité qui est liée aux antibiotiques. Et donc, cette façon de faire preuve, on peut la retravailler. Mais pour l'instant, c'est ce que m'avait dit une personne que j'avais rencontrée qui essayait de développer un essai clinique et qui me disait « Mais on est pris dans le dogme des antibiotiques, on ne sait pas comment faire autrement pour produire des preuves d'efficacité qui soient fiables, etc. » Donc, on a vraiment les phages, les antibiotiques. Les deux ne sont pas du tout incompatibles. D'ailleurs, la majorité des personnes que j'ai rencontrées considèrent qu'on devrait les utiliser ensemble, ou en tout cas, travaillent beaucoup aussi sur des études de synergie de ces thérapies-là. Mais là, la route est très longue. L'avantage des phages, j'ai envie de dire, c'est que comme rien n'est encore décidé, on peut peut-être éviter de faire ce qu'on a fait avec les antibiotiques. Voilà, on peut considérer que l'antibiorésistance pourrait au moins avoir la vertu de mettre en garde les humains sur la capacité des microbes à réagir à nos projets.
Éviter de reproduire les erreurs du passé et peut-être reconsidérer aussi notre rapport à ce monde vivant microscopique qui n'est pas inerte et qui n'est pas une matière qu'on peut utiliser à merci et de façon totalement inconsidéré. Merci beaucoup en tout cas Charlotte Brive de nous avoir exposé l'envergure de ce problème qu'est l'antibiorésistance. Je rappelle le titre de votre livre « Face à l'antibiorésistance, une écologie politique des microbes » s'est paru aux éditions Amsterdam. Antibiotique par Lower Town pour conclure cette émission, car oui, Science Chrono, c'est déjà fini. Un grand merci à Mariam Ibrahim et Hélène Trigueros à la réalisation. Merci à Arnaud Planson de l'INA, notre partenaire, pour son aide dans la recherche d'archives. À la technique aujourd'hui, c'était Olivier Arnay. Vous pouvez réécouter cette émission comme toujours sur l'appli Radio France ou bien sur le site franceculture.fr. N'oubliez pas de régler vos montres à l'heure des sciences. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, pour un nouvel épisode de Science Chrono.